Ben c'est magnifique, tout va bien.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Galère. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2020 et c'est parti pour 30 minutes d'informations choisies. Si jamais vous croyez encore en la démocratie participative ou pas, c'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales pour les prochaines élections municipales qui vont avoir lieu le mois prochain. C'est possible de s'inscrire en ligne jusque ce soir 23h59 ou dans les différents bureaux de proximité à Marseille et ailleurs. Pour rappel, ça fait 1544 jours que la France est sous état d'urgence. Nous, athlètes français de haut niveau, nous sommes révoltés. Les révélations de l'ex-championne de patinage Sarah Abibol, qui accuse dans son livre « Ainsi long silence » son entraîneur Gilles Beyer de l'avoir agressée sexuellement et violée entre 1990 et 1992, ont provoqué un séisme dans le monde du sport. Face aux nombreux témoignages qui ont émergé depuis ces révélations, les membres de la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ont décidé de prendre la parole pour manifester leur solidarité avec les victimes et proposer des solutions pour agir collectivement et briser le silence. Il s'exprime ici librement. Violence sexuelle, il est temps de donner la voix. Enfin, une première percée dans le mur du silence. Les révélations récentes d'agressions sexuelles subies par plusieurs jeunes sportifs, sportives, font trembler le système et réveillent notre colère. Nous, athlètes français de haut niveau, nous nous sentons révoltés. Révoltés, mais malheureusement pas si étonnés que cela. Une fois dévoilée au grand jour, la vérité devient glaçante, le cas isolé devient multiple, les monstres omniprésents. Combien de victimes demeurent encore blotties dans la honte de la peur? Combien auraient pu être évitées? Merci aux journalistes qui ont pris le temps de l'investigation, qui ont su d'abord croire les victimes pour mieux les écouter. Merci à ces athlètes dont les témoignages puissants montrent la force d'âme que le sport nous a appris à développer. Ils n'abîment pas l'image du sport, ils la font grandir. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité avec les victimes. En tant que membres de la commission des athlètes de haut niveau français, élus par nos pairs, nous sommes chargés de défendre l'intérêt des athlètes olympiques français. Chaque sportif de haut niveau a d'abord été un enfant, un adolescent, une adolescente, en pleine construction. Il a été entouré par une structure et formé par un éducateur à qui il a confié la clé de ses rêves. Nous nous sentons aussi responsables. Si nous prenons la plume aujourd'hui, c'est que nous nous sentons responsables. Ce sont nos quêtes de médailles qui façonnent en partie les rêves de performance des plus jeunes et qui les conduisent à pousser la porte d'un club. Si, pour la majorité, le sport a été une formidable école de la vie avec des valeurs de partage, d'entraide, de soutien, de respect pour d'autres, il y a surtout la souffrance et le silence. Nous nous sentons aussi responsables car il nous est tous et toutes arrivé d'avoir des doutes, des suspicions, des bribes d'informations. Le flagrant délit est rare et il n'est pas simple de savoir comment réagir face à une intuition ou à une rumeur. Que peut-on dire? Et à qui? La compétition, c'est aussi la sélection. Or, celle-ci ne dépend pas seulement de nos performances sportives. Elle dépend également de la volonté des sélectionneurs et des fédérateurs et des fédérations. Trop souvent, parler, c'est risquer son avenir. Alors on rentre dans un système où, même si l'on entend, on voit, on subit, on a pris l'habitude de se taire. Nous ne pouvons plus nous taire. Il est temps d'agir collectivement et de prendre conscience que briser le silence, c'est aussi servir le sport. Nous souhaitons ainsi dire non aux dirigeants. Il ne s'agit pas d'étouffer des faits pour protéger une organisation, pour préserver l'image d'un club ou d'une fédération. Non aux entraîneurs. Il ne s'agit pas de détourner le regard pour protéger vos collègues ou préserver votre emploi. Non aux institutions. Il ne s'agit pas d'éviter la surenchère médiatique pour ne pas écorner l'image du sport. Non aux parents. Il ne s'agit pas d'oublier pour continuer comme avant, pour que votre enfant accomplisse ce que vous projetez sur lui. Ces arguments, ces logiques, érigent les murs qui protègent les agresseurs. Il faut parler, le dire encore et encore. Oui, nous, athlètes de haut niveau, souhaitons que les choses changent. Oui, nous avons la responsabilité que d'autres témoignages ne sortent pas dans 20 ans. Oui, les personnes impliquées qui ont laissé le mal se répandre doivent assumer leur inaction. Oui, nous soutenons la ministre des Sports qui a su prendre des positions fortes et engager la lutte contre toute forme de violence dans le milieu sportif. Ne laissons pas le mur du silence se reconstruire. Nous appelons à la création d'une cellule d'écoute des victimes, indépendante des fédérations et tenue de respecter l'anonymat le plus complet. Une cellule en capacité de saisir le ministère des Sports pour permettre le lancement d'enquêtes administratives et la saisine du procureur de la République. Nous proposons que les casiers et les antécédents judiciaires des bénévoles, des entraîneurs et des dirigeants de clubs et de fédérations soient systématiquement contrôlés par une cellule neutre, indépendante et dotée d'une capacité d'intervention. Nous souhaitons l'adoption de mesures législatives permettant la révocation de tout individu, quel que soit son statut, impliqué dans une affaire de violence sexuelle. Et l'interdiction à vie d'exercer tout métier au contact de la jeunesse, quel que soit le domaine, pour tous les agresseurs et les prédateurs sexuels avérés. Nous demandons enfin la mise en place d'actions de formation, de sensibilisation, de prévention pour éduquer les enfants, les adolescents, adolescentes, entraîneurs, entraîneuses et managers dans toutes les structures sportives. À tous, sportifs, sportives, parents, entraîneurs, entraîneuses, managers, présidents, présidentes de fédérations, de ligues, de clubs bénévoles, journalistes, médecins, politiques, victimes ou témoins, amoureux, amoureuses du sport, ne laissons pas le mur du silence se reconstruire. C'est une tribune qui a été publiée très récemment suite aux accusations et aux livres publiés par Sarah Abibol. Et juste à un moment dans la tribune est écrit que les sportifs et les sportives remercient les journalistes d'avoir cru et d'avoir mené l'enquête par rapport à cette situation. Et nous, on avait envie de préciser que c'est normal en fait de croire les victimes qui dénoncent un viol.
Merci pour cette précision. Vous êtes toujours sur Radio Galère, c'est toujours les infos choisies. Et maintenant, on va s'écouter une carte postale cathodique où l'on apprend qu'en matière d'urbanisme, la gentrification s'est dépassée. Ça ne vous aura pas échappé en ces temps de lutte sociale. Pendant que certaines d'entre nous se bougent, battent le pavé, s'activent, d'autres se vautrent devant la télé et jouent de la télécommande. La semaine dernière, je partageais avec vous le docu de France 2 sur le règne de Godin.
j'avais toujours comme objectif, qu'est-ce que je peux ramener à Marseille? Je crois que j'ai fait de mon mieux.
Et la série Zéro Stérone de France Télévisions.
Vous savez que les premiers médecins étaient des hommes? Les premières femmes politiques aussi. Oh, et truc de fou, ils n'avaient pas leurs règles. C'est fou ça, non? Ils avaient des couilles aussi. Non mais le mot couille, quoi.
On a bien rigolé. Cette semaine, on arrête les conneries et on zappe sur Arte. Oui, Arte. Mardi soir, j'ai regardé un docu suédois passionnant sur le logement dans les grandes villes. Oui, passionnant. Le film s'appelle Push et il est tourné comme un polar où on suit les investigations de Leilani Farah, avocate de formation, originaire d'Ottawa.
Regardez-moi. Je mesure 1m57, je viens de nulle part et j'essaie de changer le monde.
Son job? Elle est rapporteuse spéciale de l'ONU sur les questions de logement.
Mon travail consiste à faire le tour du monde pour enquêter sur les problèmes de logement. Voir comment les gens s'en sortent en termes de droit au logement.
Tout au long du film, on va donc la suivre dans son enquête de Toronto à Berlin, en passant par Londres, Uppsala, en Suède, Barcelone, New York ou Valparaiso. Elle va à la rencontre des habitants, des collectifs, des associations qui se battent pour un logement digne pour toutes et tous.
Selon les Nations Unies, dans le cadre des droits de l'homme, les États sont responsables. Ils ont des obligations internationales en matière de droits de l'homme. Ils signent des traités et s'engagent envers la communauté internationale à les faire respecter. Le droit à un logement convenable fait partie de ces droits.
Le logement est un droit de l'homme. Je découvre ainsi le drame londonien de l'incendie de la tour Grenfell, survenu le 14 juin 2017. La tour Grenfell, c'est un complexe de logements sociaux situé dans un quartier très chic au nord de Londres, mais dont la majorité des occupants appartiennent à la classe ouvrière. L'immeuble fait 24 étages, comporte 120 logements. Il date des années 70, donc en mai 2016, des travaux de rénovation sont entamés qui visent l'isolation thermique extérieure, entre autres. Et ils posent un bardage sur toutes les façades. Le 14 juin 2017, un feu se déclare dans un appartement. Le feu serait parti de l'explosion du réfrigérateur d'un studio du 4e étage. Il se serait propagé par une fenêtre ouverte, située à 1 mètre de l'appareil, puis par le bardage apposé lors de la récente rénovation. Le feu n'a été contrôlé que 24 heures plus tard et déclaré éteint le 16 juin au soir. Le bilan humain définitif est de 79 morts et mortes et autant de blessés. Sans parler des traumatisés. Selon un rapport de 2018, le feu serait resté circonscrit à l'appartement où il avait pris, sans faire de victime, si le nouveau bardage n'avait pas contribué à le propager. En effet, les panneaux de revêtement utilisés étaient économiques. Ils ne coûtaient que 22 livres sterling chacun, contre 24 livres sterling pour la version résistante au feu, ce qui a permis au constructeur d'économiser 6 000 livres, soit environ 7 000 euros.
Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais au Canada. J'ai suivi l'événement sur Twitter. Et puis j'ai commencé à avoir des infos plus précises. Un complexe de logements sociaux, une population marginalisée, située dans un quartier très riche et aisé. Déjà avant l'incendie, on avait évoqué de mauvaises conditions de logement. On retrouve les éléments de cette catastrophe un peu partout dans le monde. Partout, vous avez une population défavorisée et vulnérable. La plupart des occupants de la tour Grenfell travaillaient, mais ce sont des travailleurs pauvres. Et ils côtoyaient des gens richissimes, disposant d'une quantité hallucinante de richesses. La tension entre les deux mondes. Et puis arrive l'incendie, comme une matérialisation du déplacement forcé de cette population. Et c'est ce qui se passe partout en ce moment.
Ça vous rappelle quelque chose ? Moi, ça m'a fait froid dans le dos.
Deux phénomènes convergent à l'heure actuelle dans cet espace que nous appelons la ville.
Pour l'aider dans son enquête, Leila Nifara fait appel aux analyses de la sociologue Saskia Sassen, professeure à l'Université de Columbia à New York et spécialiste de la mondialisation et des villes globales.
L'un d'entre eux est un problème que nous connaissons bien. Nous l'appelons la gentrification. Quand j'entends aujourd'hui parler de gentrification, ma réaction est assez sarcastique, si seulement c'était ça. Mais le problème est bien plus fondamental.
Attends, quoi ? Mais si c'est pas la gentrification, qu'est-ce qui fait changer nos villes aussi rapidement ?
En raison de l'achat massif de terres rurales, de plus en plus de personnes doivent quitter les campagnes. Elles viennent dans les villes. Et l'on voit les terrains urbains prendre une grande valeur. Alors cette histoire de gentrification est quelque peu périmée. Il faut être clair, il ne s'agit pas de logement. Les immeubles sont considérés comme des actifs. Il faut qu'ils soient vacants pour que vous puissiez jongler avec eux à votre guise. Vous vous rendez compte? Tous ces bâtiments sombres et vides rapportent de l'argent. Prenez une maison que vous achetez et vendez à loisir. Vous pouvez vendre cet actif en moins d'une seconde. Vous pouvez le vendre 35 fois en une heure si vous êtes dans la transaction à haute fréquence.
Il n'y a aucun lien entre la personne qui vit dans le logement et la personne qui en est propriétaire. Posséder la maison est uniquement un moyen de faire de l'argent.
La finance est très différente de la banque. Je dis toujours que la finance vend quelque chose qu'elle n'a pas. Pour ce faire, elle doit inventer des outils remarquables qui lui permettent d'envahir d'autres secteurs. Ce qui signifie que la finance est essentiellement un secteur extractif. C'est une activité minière, en somme.
En gros, quel que soit le pays en question, la problématique est la même. En rachetant des immeubles, des appartements ou des terrains, les grands investisseurs, fonds de pension en tête, obligent les habitants les moins riches à quitter les lieux. Soit en augmentant brutalement les loyers, soit en rasant les immeubles vétustes pour construire des résidences de luxe. Quitte à laisser de nombreux logements vacants, de façon à pouvoir revendre avec plus-value le plus rapidement possible.
Est-ce que le capitalisme débridé dans un domaine relevant des droits de l'homme est problématique ? La réponse est oui. C'est ce qui distingue le logement de l'or en tant que marchandise. L'or n'est pas un droit de l'homme, le logement, si.
Face à des fonds vautours, pour qui l'immobilier représente un actif beaucoup plus rentable et moins risqué que les marchés boursiers, certains font de la résistance. Grève des loyers, actions menées avec la municipalité, rachat de logements. Mais le combat est inégal.
Je trouve qu'on se moque de la loi relative aux droits de l'homme. Et ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas encore trouvé la formulation adéquate. De plus en plus souvent, on me demande d'en parler. Mais comment le faire d'une manière logique, percutante et pertinente ? Je n'ai pas encore trouvé la réponse et ça me désespère un peu.
Arrivée au terme de son enquête, Leila Nifara doit préparer la présentation pour les délégués de l'ONU.
Je ne sais plus comment on avait procédé avec notre rapport sur les sans-abri, mais je me souviens très bien qu'on aurait entendu une mouche voler pendant que je le lisais. C'est ce que je veux. La moitié du temps, ils sont scotchés à leur BlackBerry et n'écoutent pas.
Ouais.
Enfin, à leur iPhone aujourd'hui.
Le problème des sans-abri était un peu différent. On voyait des images de personnes dans des situations assez choquantes. Alors que des photos de grues, de bâtiments et de verres qui vont illustrer ton topo, ça ne va pas nous toucher de la même manière.
Et voilà le discours qu'elle livrera finalement.
Chers délégués, Nous vivons dans un monde nouveau, un monde dans lequel le secteur du logement a été transformé par des acteurs de la finance mondiale et par des excédents colossaux de capitaux mondiaux. Le secteur de l'immobilier résidentiel mondial est aujourd'hui estimé à 163 000 milliards de dollars, soit deux fois plus que le PIB mondial total. On assiste à une financiarisation du logement. Il est considéré comme une marchandise et non comme un habitat humain. Ce que je suggère, c'est de refuser la marchandisation du logement afin de retrouver ce que le logement signifie pour la dignité humaine et la sécurité. C'est une réalité concrète. C'est un droit de l'homme. Je vous remercie.
Voilà, c'était Push, un docu que vous pouvez revoir sur Arte. Et promis, la semaine prochaine, je regarde Gulli.
Pour le meilleur et pour le pire, meilleur et pour le pire. Marié au tour et au rempart, dans le passé comme à l'avenir, jusqu'à ton ultime soupir et que la mort vous sépare. Hey, tu te fais vieux. C'est violent et ça se voit à tes yeux. Et puis fais pas semblant d'ignorer tes cheveux blancs. T'es trop intelligent pour entrer dans ce mauvais plan. Il faut raccrocher les gants, rétrocéder les clés avant de déposer le préavis, à mon avis. Et s'il te reste un bout de vie, tente de pas le bâcler. Ce serait humiliant qu'un enfant se mette à racler. Te laisse par terre, les yeux mi-clos, ensanglantés. Trop heureux d'avoir taclé le grabataire et de s'en vanter. Honteux et édenté, tu ferais quoi? Quitter l'enclos en attendant que les choses se soient décantées. Tu l'as assez répété, qu'on t'a un jour respecté. Que tout petit déjà, t'étais un vrai déjanté. Mais maintenant faut avouer que t'as plus vraiment la santé. C'est sur toi qu'on essuie plaisanterie et méchanceté. Pour le meilleur et pour le pire, meilleur et pour le pire. Marié au tour et au rempart, dans le passé comme à l'avenir, jusqu'à ton ultime soupir et que la mort vous sépare. Pour le meilleur et pour le pire, meilleur et pour le pire. Marié au tour et au rempart, dans le passé comme à l'avenir, jusqu'à ton ultime soupir et que la mort vous sépare. Alors pourquoi rester? Comme si tes pieds étaient lourds et lestés. Posté là, avec pour passe-temps le gain du marathon. Des siroteurs de bouteilles ou tapeurs de carton. Je te parle pas de métier, qu'est-ce que tu me réponds? Y'a une marge entre le néant et le boulot complet veston. Et puis tu peux quand même protester sur tous les tons. Ceux qui ont le temps de t'écouter n'ont pas de poils au menton. C'est la pure vérité de nos tours de béton. C'est le coup de karaté, le retour de bâton. Ton repos mérité à l'arrière du peloton. C'est simplement d'arrêter toutes tes conneries, tonton. T'as 40 ans garantie à l'écriteau. T'es limité à des coups boiteux et vu comme un mytho. Avant on voulait t'imiter, maintenant t'éviter. Comme l'ancien vantard que le mitard a trop goûté. Et tu traînes avec des petits qui te prennent en pitié. Serre tes mains et le lendemain appelle ça l'amitié. Tu n'as aucun bastion, encore moins d'équipier. Tu n'es qu'un pion dans un guépier, un soldat de papier. Tu la connais l'histoire, c'est toi l'expert. Tout voyou doit rejoindre un jour son vestiaire. T'as bien eu quelques moments de gloire et quelques faits de guerre. Mais t'es plus qu'un pilier de bar, imbibé de pierre. Pour le meilleur et pour le pire, meilleur et pour le pire. Marié au tour et au rempart, dans le passé comme à l'avenir, jusqu'à ton ultime soupir et que la mort vous sépare. Pour le meilleur et pour le pire, meilleur et pour le pire. Marié au tour et au rempart, dans le passé comme à l'avenir, jusqu'à ton ultime soupir et que la mort vous sépare.
C'était Marié au tour de Kazay. Eh bien, c'est parti pour les petites brèves. On voulait commencer par faire un tour du côté de la Guadeloupe, parce que nos médias n'en parlent pas, parce que je pense qu'ils en ont rien à foutre. Mais il y a une forte mobilisation depuis une semaine contre la réforme des retraites. et qui s'étend depuis quelques jours aussi à la réforme du bac et au manque de moyens dans l'éducation. Donc 80% des écoles et 80% surtout des établissements scolaires de l'éducation nationale en Guadeloupe sont actuellement fermés et les enseignants sont sur les piquets de grève. Il y a un article, un témoignage de Céline qui est professeure en collège sur le site Bastamag. Alors, je prenez vos stylos, je donne les coordonnées. Du coup, c'est www.bastamag.net/grève-6-réforme-6-retraite-au-pluriel-6-enseignants-au-pluriel-6-éducation. National Guadeloupe. Voilà. Et la semaine prochaine, on essaiera de vous faire un topo sur cette réforme du bac, puisque c'est un peu complexe et subtil, mais qu'il y a pas mal de lycées, par exemple, à Marseille et à Paris, qui ont connu des blocages lundi contre le déroulement des premières épreuves du contrôle continu. Voilà, puisqu'il réforme un bac et il l'adapte encore plus aux classes moyennes, aux classes privilégiées. Mais on vous fera un topo la semaine prochaine. Autre brève. Alors, nous, ça ressemble à une grande blague, alors on est toutes contentes. Figurez-vous qu'en décembre 2019, le Conseil de la Métropole a voté la gratuité des transports pour les policiers et les gendarmes. Et que, bah, ça y est, c'est effectif depuis quelques jours. Du coup, on sait que les précaires, en tout cas les plus précaires, n'ont plus le droit à la carte au-delà de un an, la carte de transport gratuite. Et encore, déjà, pour l'avoir, enfin, il faut s'acharner un peu. Et ben voilà, eux, c'est gratos dans tout le réseau de la métropole. Du coup, ce nouveau passe-droit, il permettra de renforcer la présence policière dans les transports en commun. On se sentira encore plus en sécurité. Ah, la sécurité. On vous rassure, cette gratuité existait déjà pour nos forces de l'ordre, mais c'était perdu depuis 8 ans. Ils viennent de la récupérer. Et les policiers avaient toujours le droit de prendre la ligne express régionale et le train express régional dans toute la région PACA, gratuitement. Du coup, c'est nouveau, mais c'est pas tout à fait nouveau. Faites gaffe à vous dans les transports. Eux voyageront gratuitement, mais nous autres subirons ou assisterons à leur violence, même jusque dans les rames de métro. Vassal, t'as tout compris. Merci. Ton électorat policier doit se sentir bien chouchouté.
Jeudi 6 février 2020, on est sur le port de Marseille. Il est 17h30 et se prépare un rassemblement en hommage aux personnes mortes en mer en voulant traverser les frontières. Et amarré sur le port, dans le soleil couchant, un bateau, un voilier de 7 ou 8 mètres de long, avec des banderoles en guise de voile. Sea rescue is not a crime. Aider les gens à la mer n'est pas un crime. Port ouvert pour les exilés, port fermé aux marchands d'armes, stop, Bari, Bolloré.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc depuis longtemps déjà, nous sommes confrontés à des morts et à des disparitions d'êtres humains aux frontières extérieures de l'Europe, en Méditerranée, au Sahara ou dans les centres de détention européens qui sont conçus pour dissuader les gens de partir. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui ont été tués, qui ont disparu ou qui ont été victimes de disparitions forcées. Mettre un terme à ce massacre continu causé par le régime frontalier de l'Europe est l'une de nos motivations pour être actifs ensemble dans une lutte à long terme pour la liberté de mouvement et la justice mondiale. Ce 6 février 2020, nous nous réunissons pour transformer notre deuil en action collective. Nous venons de contextes et d'horizons divers. Nous sommes des proches de disparus de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, du Cameroun, du Sénégal, de Syrie, du Mexique, du Pérou et d'ailleurs. Nous sommes ceux qui trouvent des restes humains dans le désert et la mer, qui tentent d'identifier les défunts dans les différentes zones frontalières, qui donnent aux corps sans nom un enterrement digne. Nous sommes ceux qui tiennent la main quand une fille, un fils, une sœur, un frère, un ami nous manque. Pour nous, la commémoration des personnes décédées, disparues ou victimes de disparitions forcées fait partie de nos luttes quotidiennes. Ce 6 février 2020, cela fera 6 ans. En 2014, la police des frontières espagnoles, la Guardia Civil, a massacré au moins 15 personnes qui tentaient de passer la frontière dans l'enclave espagnole de Ceuta. Jusqu'à présent, leurs morts n'ont pas été reconnues comme des meurtres. Les agents frontaliers impliqués restent impunis. Ce massacre n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la mort et de la disparition aux frontières européennes. Plusieurs milliers d'autres personnes ont perdu la vie dans le désert, en mer, ont disparu ou sont victimes de disparitions forcées. En tant qu'alliance transnationale et par des actions de solidarité dans de nombreuses villes, nous commémorons ces vies disparues et luttons pour un monde juste où la liberté de mouvement sera enfin et véritablement un droit humain fondamental. Aujourd'hui, nous nous réunissons et protestons aux frontières extérieures de l'Europe, mais aussi dans de nombreuses villes d'Europe. Ceuta, Barcelone, Berlin, Marseille, Milan et autres, car nous devons ramener la violence à sa source, au cœur de l'Europe. Avec notre terme commémoration, nous offrons une promesse. Nous n'oublierons pas ceux qui ont perdu la vie et qui ont été portés disparus, et nous lutterons contre les régimes frontaliers meurtriers.
We come together to denounce the deadly violence of global border regimes. We come together to commemorate those who died, disappeared, or were victims of forced disappearance in the Mediterranean Sea, in the Sahara, in the Evros region, in Calais, and elsewhere. We accuse the perpetrators of murder, governments who decide to further restrict routes and deter migrants through all available means.
Formidable. Ils étaient formidables, les autres formidables. On était tous formidables. Les Méditerranéens, ainsi que les Espagnols, ainsi que les Turcs. Ceci est un texte pour vous.
Sur une des pancartes, un texte d'Aminata Traoré. Les moyens humains, économiques et technologiques que l'Europe des 27 déploie, entre autres contre les migrations africaines, sont, en réalité, une guerre que cette puissance mondiale mène contre la jeunesse rurale et urbaine sans défense d'Afrique. Après avoir rallié leur droit à l'éducation, à l'information, au travail et à l'alimentation dans leur pays d'origine par le biais des mesures d'ajustement structurel, victimes des décisions et des options macroéconomiques desquelles ils ne sont pas du tout responsables, les Africains sont expulsés, persécutés et humiliés lorsqu'ils tentent de s'en sortir en émigrant. Les morts, les blessés, les invalides suite aux batailles sanglantes de Ceuta et Melilla en 2005 et les milliers de cadavres qui arrivent chaque mois sur les plages de Mauritanie, des îles Canaries, de Lampedusa et sur d'autres sont donc victimes de l'émigration forcée et criminalisée. Aminata Traoré, Mali.
Je viens effectivement du Maroc. J'habite surtout à Kinshasa, Brazzaville.
Mais je le sais, moi.
J'en ai vu autant mourir. J'en ai vu beaucoup périr. Pourquoi ? Pour une pièce d'identité. Alors aujourd'hui, ce soir, vous qui êtes présents, et ceux qui sont absents malgré eux, on leur rend hommage.
Sur les affiches, on peut lire, par exemple, pour l'une d'elles, au moins 2353 personnes sont mortes en 2011 en tentant de pénétrer dans la forteresse Europe. Disparues en mer entre la Tunisie et l'Italie. Mars 2011, 2353 personnes décédées.
Eh ben, c'est toujours les infos sur Radio Galère. C'est bientôt fini. On voulait juste annoncer un rendez-vous pour l'agenda. Mardi, dans 4 jours, à 19h30 au cinéma Le Gyptis, qui se situe tout près de la place Cafo dans le 3e arrondissement, et bien à 19h30, il et elle diffuse le film Les Misérables de Ladjili. Alors il y a un avertissement, spectateurs, spectatrices, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Le résumé, c'est juste Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité, donc la BAC, de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Et il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, deux baqueux d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier, alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation. Un drone filme leurs moindres faits et gestes. La projection du film sera suivie d'un débat dont la thématique est cinéma et quartier populaire, en partenariat avec Images de Ville. Voilà, on n'a pas le temps de développer. Enfin, la Julie a réalisé ce film, mais aussi un documentaire que personne n'a voulu diffuser à l'époque. C'était autour de la révolte des banlieues en automne 2005, où il avait tourné plusieurs semaines de suite ce qui se passait dans ces révoltes. Voilà. Aujourd'hui, il a réalisé un film qui a, qui a permis de faire prendre conscience à Emmanuel Macron que quand même dans les quartiers populaires, c'était chaud. Eh ben, au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir, bonne semaine.